Oui, Daniel Mermet, c'est je laisse ce message parce que depuis vendredi soir, je suis profondément bouleversée et dans une colère épouvantable. Et quand je t'aurai dit le métier que je sais que tu me comprendras. Ça fait 30 ans passé que je travaille en psychiatrie et la catastrophe qui est arrivée, nous, dans tous les hôpitaux psychiatriques de France, on l'attendait, on la prévoyait. Depuis quelques années, toutes les décisions qui sont prises concernant la psychiatrie n'ont pas de sens. C'est n'importe quoi, n'importe comment, y compris dans la construction des locaux. On n'est jamais concerté sur rien, ni les patients qui y vivent et surtout pas les infirmiers qui y travaillent. Toutes les décisions sont prises par des gens qui ne savent pas ce que c'est que la psychiatrie, qui n'y viennent pas, qui ne se renseignent pas. Avant, il y a quelques années de ça, les cadres, quand ils étaient nommés, étaient issus du soin et connaissaient les services. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Les cadres sont formés ailleurs. On leur demande de ne pas s'impliquer, d'être au-dessus. Mais ils sont tellement au-dessus qu'ils ne voient plus la réalité du tout, du tout, du tout. Et c'est nous qui sommes obligés de gérer une souffrance colossale de toute une population qui n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous, avec tout ça? Je te disais, les places, on les cherche partout. On parcourt des départements entiers pour savoir où est-ce qu'on peut mettre des patients. La sectorisation, elle n'existe plus. Ils ont fermé des lits, fermé des lits, fermé des lits. Et maintenant, on ne sait plus quoi faire. Et nous, les infirmiers, on est là. On doit gérer ça. Gérer la violence, gérer la souffrance, gérer tout ça. Et c'est épouvantable. Je crois qu'il est vraiment temps que les gens dans ce pays sachent qu'est-ce que c'est que la psychiatrie. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise, parce que nous, on vit ça tout seul. Les médecins sont à côté de nous, mais pas présents tout le temps. C'est nous qui sommes au contact des patients. C'est nous et personne d'autre. Et on ne nous demande jamais rien. La psychiatrie fait peur, la folie fait peur, les gens ne veulent pas savoir. Mais ce qu'ils ne veulent pas savoir non plus, c'est que pour délester les services, souvent on fait sortir les patients plus tôt, parce que c'est plus supportable de les garder là. Il faudrait que je te résume tout ça, mais tu vois, je suis complètement troublée, j'y arrive pas. Écoute, si tu veux que je te parle un peu de la psy, je pourrais le faire, d'autres copains pourraient le faire. Ce qui est arrivé à Sénana, nous, ça nous bouleverse parce que c'est elle, mais on sait très bien que tous les jours, ça pourrait être l'un d'entre nous. Voilà, Daniel, écoute, je sais plus quoi dire. Je suis catastrophée. Les dirigeants qui prennent des décisions pour nous ne connaissent pas la psychiatrie, n'y ont jamais travaillé. Et voilà ce que ça donne.
Oui, eh bien, bonjour, Daniel. Eh bien, voilà, mon message, il est tout simple par rapport à ce qui vient de se passer à Pau. Alors, ces hommes politiques, Douste et Blasi et compagnie, ça me rappelle un peu la canicule. Donc, ça y est, ils ont la trouille, ils font de leur froc. Tout à fait, parce que d'un seul coup, alors ils serrent les vis, pas d'économie, économie, économie. Alors, il y en a marre, d'ailleurs, moi je sais que c'est le vote, maintenant c'est fini, il n'y en a plus question. Tout le reste, c'est du pipeau.
Ah, vous pouvez le dire dans l'humanité, massacre à l'hôpital. Ah, c'est vraiment le cas de le dire, mais c'est le massacre quotidien. Quand ça concerne les travailleurs, ah, sociaux, putain, on lève les grands cris. Excuse-moi du peu, tu vois. Moi, j'ai été massacré à l'hôpital. Un massacré. En tout bien, tout honneur. T'as pas encore ta dose, on va t'arranger une petite dose. Tu t'es bien massacré. Bien complètement tordu, un peu de voir t'en sortir, hein. J'en connais un morceau, hein. J'en connais un morceau.
Bonjour, c'est Gilles. Deux infirmières d'un hôpital psychiatrique ont été assassinées dans des circonstances inconnues. Et nous voilà devant une cause nationale. En septembre, deux employés de la direction départementale du travail dans le même coin ont été sauvagement abattus par un pauvre paysan, entre guillemets. Ça a été vite enterré, été enterré. Je me demande qui fabrique la mousse et pourquoi. Si vous avez des éléments de réponse.
Des éléments de réponse, oui, de temps en temps, on essaye d'en donner sur qui fabrique la mousse. Mais c'est vrai que c'est la bonne question. Qui fabrique la mousse? En tout cas, c'est pas la mousse qu'on a entendue là dans les réactions, les commentaires sur ce qui est arrivé à Pau. On a eu pas mal de messages dans la tonalité du premier qu'on a entendu de cette infirmière psychiatrique, ce qui nous a donné envie d'effectivement de essayer de travailler sur ce sujet, de faire des reportages sur ce sujet au début janvier. Merci pour vos messages quotidiens sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. aujourd'hui, on va essayer de vous prouver que toutes les oies ne sont pas gavées, au moins sur là-bas si j'y suis. On va rencontrer de drôles d'oies, et sur le dos de ces oies, un drôle de personnage, un certain Nils Holgersson. Il y a toute une génération qui tout de suite frémit des oreilles et voit des grandes étendues, pas nécessairement neigeuses, mais quand même la Suède est associée à ces paysages et à cette saison. C'est un cliché, mais on en est en ce moment au temps des clichés. Donc on va revenir en Suède, se balader avec ce merveilleux personnage issu d'une imagination à la fois fertile et utile. Auparavant, on aura quelques réactions, pas forcément réactionnaires à l'émission d'hier, qui était un entretien avec Serge Halimi autour de son livre Le Grand Bond en arrière, juste après un hommage à notre nouveau comique national.
Serge Dassault.
Oui, bonjour, c'est Fabien du Poitou-Charentes. J'écoute l'émission aujourd'hui, lundi, et je dois dire que je suis un petit peu surpris. Là, j'ai l'impression qu'après le révisionnisme historique, on a inventé le révisionnisme économique. Alors, il serait bon que certains des invités se plongent non pas dans des sommes, dans des ouvrages, ou des soi-disant ouvrages de référence. La théorie, c'est très bien, mais la pratique aussi. Le libéralisme, ça marche pas si mal que ça. Et puis, ça permet de s'apercevoir que c'est le seul système économique qui soit arrivé à enrichir autant les hommes depuis que l'homme est homme. Voilà, ce serait bien de s'en souvenir. Si le communisme a fait mieux, je veux bien voir. Si le socialisme a fait mieux, je veux bien voir aussi. Si la social-démocratie a fait mieux, je veux bien voir aussi. Hein, je veux bien qu'on me le prouve. Pour l'instant, le libéralisme reste le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Merci, bonne journée. Et que certains prennent le temps quand même de se renseigner, parce que le libéralisme, ça n'est pas le capitalisme. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.
Bonjour, est-ce qu'il est permis de dire des grosses bêtises parce que je suis pas habituée à m'exprimer comme ça dans le téléphone? Je voudrais réagir à l'émission d'aujourd'hui, au livre de Monsieur Halimi. Il a parlé du grand bond en arrière, moi je faisais des grands bonds de joie dans mon fauteuil parce que c'est merveilleux de voir un spécialiste exprimer d'une façon scientifique tout ce que je ressentais intuitivement, du fait que ce néolibéralisme ne venait pas comme ça du ciel mais avait été concocté et tout. C'est absolument passionnant, en même temps un peu désespérant. Mais ça fait du bien de savoir que je suis pas la seule à être de gauche.
Bonjour, sentiment de malaise à nouveau. Monsieur Halimi a raison, tout ce qu'il dit est vrai. Par contre, est-ce qu'on doit être nostalgique du keynésianisme? Est-ce qu'on doit être nostalgique de la reconstitution du pouvoir des capitalistes en 1947? Est-ce qu'on doit être nostalgique de Monsieur Maurice Thorez, l'endiromineur, retroussez vos manches? Il faut reconstruire le pays, c'est pas le moment de faire grève. Est-ce qu'il faut être nostalgique de cet État keynésien? Non, je crois pas. Franchement, non. Je pense même que l'État keynésien, c'est la paupérisation relative de la classe ouvrière. Le capitalisme, le capital s'accumule très fort. Et par la suite, une fois qu'il s'est bien accumulé, qu'il a bien construit un appareil d'État répressif très fort, très bien relayé par la gauche, par le mouvement des citoyens, etc., etc., ben il peut se permettre de se lancer dans la paupérisation absolue des travailleurs. Et c'est le même mouvement. C'est comme quand on bosse, quand le patron veut pas qu'il y ait du turnover, il augmente un peu les salaires et tout. Et puis une fois qu'il veut embaucher des intérimaires, ben il arrête d'augmenter les salaires. Il faut pas croire que dans le cadre du capitalisme, les salariés n'ont pas de droits, c'est évident. Et les droits qu'ils ont sont des faux droits destinés à leur faire renoncer à prendre le pouvoir et à détruire le capitalisme, c'est tout. C'est tout, c'est pour les modérer, c'est pas... Alors moi je suis pas nostalgique de Mendès France, je suis pas nostalgique de Maurice Thorez, je suis pas nostalgique du général de Gaulle. Je vois pas ce que la nationalisation de Renault a apporté aux ouvriers. Ils ont été traités comme de la merde dans une usine nationalisée au lieu de l'être dans une usine privée. Puis voilà. Alors je comprends pas pourquoi Monsieur Halimi ne va pas plus loin. Est-ce qu'il veut créer un pont avec le Parti Socialiste? Qu'est-ce qu'il veut, quoi? Il nous appelle même pas à la grève générale, qui serait le minimum pour se défendre. Voilà, excusez-moi, c'était un peu long. Au revoir.
Donc voilà, je voulais réagir par rapport au livre, là, Le Grand Bond en Avant, dont tu viens de nous présenter, là, ce soir, les grandes lignes. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant de montrer comment est-ce qu'un système s'impose petit à petit et comment ensuite il arrive à se présenter comme étant une fatalité. C'est une belle leçon de manipulation et je voulais remercier cet auteur parce que donc en dénonçant un peu cette technique de manipulation, il réveille un peu dans ces temps d'hiver les esprits critiques et ravigote un peu cette lueur d'espoir comme quoi les choses peuvent changer. Donc voilà, donc vu que c'est la période des fêtes, et ben je trouve que c'est un beau cadeau de Noël qui nous est fait. Merci, salut.
Bonsoir, lundi 20 décembre, quel bonheur d'écouter les explications si pertinentes et si claires de Serge Halimi au sujet de la marche du capitalisme actuel. Bravo. En ce qui concerne Serge Dassault, je suis du même avis qu'un auditeur qui l'a déjà exprimé sur ce répondeur. Serge Dassault, il faut l'inviter de partout, dans toutes les émissions de télé, de radio, parce que lui, il va savoir nous remobiliser, tous les militants syndicalistes et tous les ouvriers, et il va faire avancer les choses.
Salut, c'est Steph Bardoul d'Auvergne. Donc salut à tous. Avant-hier, Rafi, mon grand-père, il vient de casser sa pipe. Ce grand homme m'a juste dit un jour, sois libre, pense, revendique pour toi et pour les générations futures, comme je l'ai fait, pour une vie meilleure. Le pire qui peut t'arriver, c'est de courber les chines et de baisser les bras. Alors Rafi, ce soir, comme tu le faisais au-dessus de mon berceau, j'écoute Assaïra, Assaïra, Assaïra de Piaf. Salut Rafi, c'était Steph.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Sonia Kronlund et Esther Nylander, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à Flight Paris. Number two, arriving from
Ja, er en liten gåsabok från Skåne, en skåning som ni vet är alltid trygg. Och fast jag är så nära sol och måne, så är jag säker på min gåsarygg. Långt under mig det ligger som en tavla, det vackraste i världen man kan se. Både skogen, sjö och strand blir ett enda sagoland när man ser det lite grann så här från ovan.
Ja, tack så mycket.
Enfin, aux cheveux d'ange, heureux enfant de Vesna Vemenug. Combien de fois Esther Nylander vous a-t-elle chanté cette chanson-là? Joyeux chenapan aux joues de pommes nourries de brioches, de bibles et d'écrevisses. À travers le rideau, combien de fois à la chandelle dans la maison, perdue dans les dredons de l'hiver, ou bien les nuits d'été au soleil de minuit, combien de fois dans la maison peinte en rouge de Falin, combien de fois Esther Nylander vous a lu et raconté l'histoire de Nils Holgersson, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce paysage de pays sage, si pur, ciel bleu, comme le drapeau hissé dans les jardins ce dimanche, bleu et jaune, les blés des cheveux des petites filles qui, au long des clôtures et des pruniers, vont au temple, un beau dimanche de velours noir et d'amidon. L'air est tiède, les vers sont profonds, les lacs sont purs, les bouleaux sont frémissants, et il y a toujours, toujours un bateau qui part pour une île de saumon, d'ennui et de Suna. Et puis, sur ce paysage, des ombres qui glissent, l'ombre des oies sauvages qui remontent vers le nord, parce que c'est comme ça. Et sur le dos d'une de ces oies, Nils Holgersson, haut comme trois pommes. C'est avec ce petit garçon, le garçon de la légende, que nous partons aujourd'hui de Sirup à Kiruna, la Suède à Dodoa. Combien de fois Esther Nylander a-t-elle chanté cette chanson-là ?
Om Mikael i dagen som faller in i år tänker jag till att resa härifrån. Men ingen haver jag som sörjer mig då. Ej heller fäller jag någon tår. Längtat haver jag efter dig min lilla vän. Liksom fågeln allt efter ljusan dag. För var och en gång som jag dina ögon ser så blir jag så hjärtinneligen glad.
Quand vous étiez enfant, vous lisiez l'histoire de Nils Holgersson?
Oh, il y en a un autre från Skåne.
Quand il est parti de Scanie jusqu'à Lapland.
Vad går så ryggen?
Sur le dos de l'oie.
Tyckte det var roligt med alla dessa landskap.
Mm.
För man hade ju bara varit här inom Sörmland förut, Ben och Värmland och...
Il y avait les histoires de toutes ces régions de la Suède parce que je n'avais été nulle part ailleurs, et quand il partait à Värmland et tout ça, ça c'était intéressant.
C'est-à-dire qu'en fait vous avez connu la Suède à travers les histoires de Nils Holgersson.
Ja, det var det, oui.
C'est comme ça.
Det var en bra geografilektion.
C'était une bonne leçon de géographie.
Och det där att han satt på en gåsarygga, men det var ju så overkligt otroligt för oss barn.
C'était incroyable, irréel de monter sur la
du noir.
Oui.
Ça, vous aviez quel âge à ce moment-là?
Jag var nog 10 år.
10 ans, je
crois. Man hade ju aldrig sett en gås överhuvudtaget, så det var ju Skåne.
On n'avait jamais vu une oie avant, parce qu'ils étaient en Scanie.
Il y a 91 ans, en Suède, était publié un livre intitulé « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède » de Selma Lagerlöf. C'était l'éducation nationale, c'était les enseignants qui avaient demandé à cette femme, écrivain déjà célèbre, de faire un livre de géographie qui raconterait la Suède et qui serait un livre de lecture. Et Selma Lagerlöf a tout simplement écrit un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour tous, puisque ce livre a été traduit dans le monde entier, vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, des millions d'exemplaires, peut-on dire, et que beaucoup d'entre nous, d'enfants, ici, encore aujourd'hui, ont la chance que les parents leur lisent des passages de ce voyage. De quoi s'agit-il? D'un petit garçon d'une douzaine d'années qui va partir sur le dos d'une oie et qui va traverser la Suède, découvrant ce pays et par là même faisant découvrir à des générations d'enfants cette patrie. Et ce cheminement va bien sûr raconter le lien entre tous les Suédois, leur communauté de destin, ce qu'ils ont de particulier. Mais au-delà même d'un livre de géographie, c'est un livre sur les légendes, sur l'histoire du pays, sur la nature, sur la vie des animaux, avec une extraordinaire précision, quelque chose de ravissant. Et puis, la psychologie du personnage, disons, est d'une finesse et d'horlogère, cette formidable horlogère qu'était Selma Lagerlöf. Et dans une petite note qu'on m'a remis au sujet de ce livre, pour résumer ce livre, on dit, dans ce récit, qui emprunte son merveilleux légende, le sentiment de la supériorité de l'homme sur le reste de la nature s'allie à un respect, à une tendresse profonde pour toutes les créatures vivantes, de sorte que l'enfant prend tout naturellement connaissance des valeurs les plus élémentaires et les plus simples. Sur le chemin de Nils Holgersson, c'est très très beau parce que là c'est dimanche, il est midi, mais c'est la lumière, une lumière magnifique sur cette partie de la Suède. C'est le sud-sud de la Suède. Champ de blé, lumière blanche, grise, argentée, voilà, on va dire argentée. Les maisons rouges là-bas. Et puis là, il y a un tracteur avec un gars qui est en train de travailler. On va lui demander s'il sait. Si. Bonjour! on cherche l'endroit d'où est parti Nils Holgersson.
Nils Holgersson Gordon ligger här strax bredvid.
La ferme de Nils Holgersson est juste à côté.
Et vous
connaissez vous Nils Holgersson?
Oui, je connais till Nils Holgersson. Jag har läst om honom i skolan.
Oui, bien sûr que je connais Nils Holgersson. J'ai lu son histoire à l'école.
Et vous savez qu'il est parti d'ici?
Oui, il a été avec le ruggen pour un gaus, il a été ça.
Bah oui, il est parti sur le dos de noix.
Dans quel état il était quand il part sur le dos de l'oie?
Väldigt mycket mindre än en vanlig människa, så att.
Bah non, bien sûr, il était bien plus petit qu'un homme ordinaire.
Et donc, au début, Nils se transforme en tomte.
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 Tomte. Oui,
c'est quoi les tomte?
C'est de petits êtres qui sont dans la maison ils sont pas forcément très gentils, pas méchants non plus, mais il faut être gentil avec eux parce qu'autrement ils peuvent faire des emmerdements.
Ah, c'est des lutins?
C'est des lutins, oui.
Qui sont dans la maison, qui sont ni bons ni mauvais?
Non, exactement.
Ah, comme les trolls?
Non, tout chez les hommes. Les trolls sont dans la forêt, ils sont quand même très différents de Mte, ils sont avec les hommes.
Toi qui es arrivé dans la maison? Il a essayé de le mettre dans un filet, il a été méchant avec un vieux tomte.
Voilà.
Hein, c'est ça?
C'est ça.
Et pour sa peine, il est transformé, il est réduit. Il est réduit, il devient tout petit. C'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, exactement, oui.
Et puis il va partir traverser la Suède à dos doigts. Ici, c'est la Scanie?
Oui, c'est la Scanie.
Bah oui, bien sûr.
C'est la Scanie.
Ici, c'est la Scanie, c'est la vraie sud de la Scanie.
Yeah, Scanie, c'est... Har ju varit en del av Danmark en gång i tiden.
Scanie faisait partie de Danemark un jour.
Et dites-moi, est-ce qu'on voit des oies en ce moment? Ça c'est quoi là-haut? C'est des mouettes ça là-haut dans le ciel.
Det kommer de att göra det. Nu får jag denna månad.
Bah oui, ils vont bientôt passer. Ça va probablement être ce mois-ci.
Et de temps en temps, il y a un petit garçon sur les noix.
Bah
oui, ça doit bien se passer.
S'il faut bien regarder, si on regarde bien, on le voit.
Il doit faire un petit travail de canaille au derrière.
Il faut regarder très très près.
Alors, on va interrompre la balade de Nils Holgersson à travers la Suède. On va le retrouver tout de suite, mais on a, je crois, Claire Servageant. Une bonne nouvelle.
Effectivement, hein, c'est une excellente nouvelle. Christian Chesneau et Georges Malbruno sont libres. L'armée islamique en Irak les a libérés. L'information était tombée tout à l'heure à 17h. Elle avait été donnée par la chaîne Al Jazeera. On attendait la confirmation de cette nouvelle. Elle vient de tomber. Cette fois, c'est officiel. L'information est confirmée officiellement à Paris. D'après Al Jazeera, les deux journalistes devraient être remis à l'ambassade de France à Bagdad. On en saura certainement plus d'ici 18h tout à l'heure. Alors sachez qu'il y aura une édition spéciale à 18h sur France Inter. Christian Chesneau et Georges Malbruno sont libres. Daniel, c'est à vous.
Merci Claire Servageant. On retrouve Nils Holgersson qui se balade à travers la Suède sur le dos du froid. C'est la Scanie, bien sûr. Ben oui, bien sûr, voulez-vous qu'on soit... On est en Scanie, puisque ce paysan est dans son tracteur et qu'il laboure son champ. Évidemment qu'on est en Scanie, tout près du Danemark, qu'on est tout près. Mais nous, ce qui nous intéresse, là où nous sommes, c'est-à-dire à Vestra Vemenug, là d'où part l'histoire de Selma Lagerlöf, là d'où part Nils Holgersson, c'est de savoir si c'est bien ici, exactement où nous voulons absolument savoir. Alors on va dans une ferme, non loin de là, dans cette campagne très très proprette, c'est dimanche, on a l'impression que l'aspirateur a été passé, et on rencontre un paysan qui pourrait tout à fait être un très honnête Bourville suédois. C'est d'ici qu'est parti Nils Holgersson.
Je pense qu'en réalité, c'est peut-être pas ici. Je pense que c'était dans le village.
Dans le village.
Il doit y avoir un endroit là derrière l'école et un petit bois. Mais ça a été détruit, cette maison. Mais c'est une belle ferme là-bas. C'est exactement dans l'histoire, une ferme comme ça en quatre parties avec une toit de chaume.
Et où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui connaît bien l'histoire dans le village?
Ah oui, dans le village, il y a la vieille maîtresse de l'école.
Ah, bon, on va aller la voir.
Vous allez tout simplement prendre le chemin là et aller à côté de l'église. Je suis cette deuxième maison à droite. Et elle devrait connaître.
Alors? Eh bien, on fait comme le paysan nous a dit, l'agriculteur nous a dit, on va dans le cœur du village de Vestra Vemenug et on va près de l'église. Alors là, on s'aperçoit que Ingmar Bergman n'a aucun talent. Il avait qu'à peindre ce pays. C'est une église blanche, éclatante de blancheur, avec évidemment des tombes sombres, noires, et puis au bout d'une allée de gravier, des maisons, et puis là, on arrive à la maison d'Esther Nolander, qui est une institutrice retraitée et qui connaît parfaitement ce que nous cherchons. Vous vous appelez Esther, c'est ça?
Yeah. Mm-hmm. Yeah.
Et vous êtes institutrice ici?
Oui,
j'étais maîtresse, mais pas ici, à Ystad.
Ah, d'accord. Et vous n'avez jamais enseigné alors ici?
Non, seulement au catéchisme.
Esther, là, vous avez un buste de Selma Lagerlöf.
Je l'ai acheté déjà dans les années 50 à Malmö. C'était à la centenaire de la naissance de Selma Lagerlöf.
Alors, vous avez beaucoup d'admiration pour elle.
Du beundrar väldigt mycket Selma Lagerlöf.
Ja, det har jag alltid gjort för jag tyckte det var så fint att namnet på min lilla födelseby stod i den här.
Oui, ça j'ai toujours pensé parce que je trouvais que c'était tellement joli qu'il y avait le nom du village où je suis née dans ce livre.
Ah. Och den är översatt i så många språk.
Et traduit dans tellement de langues.
C'est vrai, votre village où vous êtes née ici, comment on dit, Vestra?
Vestra Vemmenhög.
Vestra Vemmenhög.
Good.
Oh, good.
Vestra Vemmenhög.
C'est toujours difficile, tomten. L'intonation.
Tomten.
Hein?
Tomten.
Tomten.
Yeah.
Vestra Vemmenhög.
Det var så roligt då när jag var i Ystad. Då var det en kyrkoherde där.
C'était tellement amusant quand j'étais à Ystad. Il y avait un pasteur.
Och han hade släktingar i Frankrike.
Il avait de la famille en France.
Du hade han med detsamma frågat, är det långt till Vestra Vemmenhög?
Alors la première chose qu'ils ont demandé, c'est est-ce que c'est loin pour aller à Vestra Vemmenhög?
För då läste de boken om Nils Holgersson.
Parce qu'ils étaient en train de lire le livre de Nils Holgersson.
Ah, mm. Vous êtes fiers de ça, hein?
Tout
Tu te sens drôle.
Oui, je trouve ça très amusant.
Combien d'habitants ici dans le village?
Circa 200.
Environ 200.
200. C'est le nombril du monde.
Oui,
c'est comme ça, oui.
Oh, Harry Martinson écrit quelque chose.
Oui, Harry Martinson a écrit quelque chose. Je vais voir si je l'ai quelque part. Mais ça concerne justement ce petit village.
Harry Martinson écrit ça. I dessa år då Västra Vemmenhög var världens början blev vårt land oändligt. I blodis utsträckt och i solrök drunknat försvann det rymdbespeglat, barnsligt upphöjt i sagans svindel under glada moln.
Pendant toutes ces années, Västra Vemmenhög était le commencement du monde. Notre pays était sans limite, s'étendant sous la brume inondée de soleil. Il disparaissait dans l'espace, élevé par l'esprit de l'enfance, dans le vertige du conte sous les joyeux nuages.
Qui sont les tomteurs?
Det är goda väsen som hjälper människorna om man är snäll mot dem.
C'est des bons esprits qui aident les hommes si on est gentil envers eux et les traite bien.
Ils habitent dans la maison?
Ja, det gör de.
Oui.
Mais jag har aldrig sett någon tomte.
Mais moi j'ai jamais vu un tomte.
Ah. La dame ferme la porte et ramène des petits sabots.
Mais les stéphanois.
Ils sont trop. Moi je crois dans le tomte. Ils sont un peu trop gros ces sabots. Moi j'y crois. Si le tomte vient.
Ça c'est les sabots pour de tomte.
Ja, jag kallar dem så därför att jag har så mycket att göra just Nils.
Je les appelle comme ça parce que bon, moi je pense tellement à Nils. Je vais vous montrer quelque chose.
Kan vi gå bort till det fönstret ska vi titta på Nils Holgersson när han flyger här utanför.
Si on passe là à la fenêtre, on va regarder comment Nils Holgersson vole.
Alors on va regarder par la fenêtre. Ah, c'est très joli, c'est très très joli. Sur un petit piquet dans le jardin pour accrocher le linge, eh bien, il y a une oie découpée avec un petit garçon qui sert pour indiquer le vent. Et ça, c'est une girouette qui indique... Et là, il y a une autre histoire avec une cigogne et une grenouille, et ça, c'est le jardin d'Esther. Voilà. Oh, elle a plein de petits objets.
C'est tout ce qu'ils ont vendu avec Nils. Il y a énormément de choses.
Ça, c'est Nils Holgersson sur son oie en bois. Et ça, c'est le livre.
Est-ce que vous avez jamais lu le livre?
Faites voir le livre. Ah, il y a un très beau dessin dans ce livre-là.
Ici, c'est le livre, mais il est en
Suédois, là. Oui. Esther, est-ce que vous pouvez trouver le début de l'histoire quand ça se passe ici?
C'est seulement manger des lunettes. Ça ira.
Voilà, et Esther, l'institutrice, prend le livre, se met à la lumière, on traverse la pièce, elle se met à la lumière et elle va chercher le passage au début du livre.
C'est juste là où j'ai marqué, parce que j'ai lu tellement de fois.
C'est justement là où j'ai fait cette marque, parce que j'ai lu tellement de fois.
Ute var det allra vackraste vårväder. Året var inte längre kommet än till den 20 mars. Men pojken bodde i Västra Vemmenhögs socken, långt nere i södra Skåne, och där var våren redan i full gång. Det var inte grönt igen, men det var friskt och knoppande. Det fanns vatten i alla diken och hästhovsörten stod i blom på dikeskanten. Allt det krattet som växte på Stengärdsgården hade blivit brunt och blankt.
Combien de fois vous avez lu cette histoire pour les enfants?
Ça, je ne sais pas. Je l'ai eu à l'école aussi.
Quand vous étiez enfant, on vous apprenait cette histoire.
Bah oui, dans cette école juste à côté.
C'était votre école à vous?
Oui, dans l'église. Dans l'école.
Mais
Nils, le garçon n'est pas allé à l'école dans cette école-là. Parce que c'est de 1906.
Hein? Exactement.
Donc c'est dans une autre école qui a été détruite depuis, mais notre amie Esther est allée dans cette école-là.
Eh bien, il y a un peu de ce commande-filme dernière instance.
Seulement cette petite morceau, et puis ensuite, il va recevoir le gifle là-bas.
Vi har nu sedan 1990 en förening här.
Nous avons une association depuis 1990.
Selma Lagerlöf-gruppen som träffas flera gånger om året här inne.
C'est la groupe Selma Lagerlöf qui se réunit plusieurs fois par an.
Ici?
Ja, här i huset intill.
Oui, dans la maison à côté.
Där har vi böcker och sådant om henne.
Là, on a des livres, tout ça, la concernant.
Ah.
Och då börjar Selma med mig in.
Et alors là, je porte Selma avec moi.
Ah, vous avez un vrai culte pour Selma.
Est-ce
qu'on ne pourrait pas aller dans la maison de Selma?
Bah oui, j'ai les clés, je peux très bien y aller. J'ai les clés pour l'église et pour tout.
Bah allons-y. Esther, la maison des parents... De Nil, c'était où?
Il y a la touriste frågar om.
La touriste le demande.
Om det är Västromkyrkan eller Östromkyrkan.
Si c'est à cette côté-ci de l'église ou à l'autre côté.
Ah.
Så säger det spelar ingen roll för det är saga.
J'ai dit que ça a aucune importance parce que c'est pas compte.
Il y a vraiment beaucoup de touristes qui viennent et qui demandent.
Oh, il y a sin hätte fjur, il y avait la busslast.
Surtout l'année dernière, il y avait des bus entiers.
Pour le 90e anniversaire de la naissance du personnage.
Cette année, c'était plus calme. Une dimanche, il y avait tellement de gens, c'était comme si ça avait été le marché.
Oh. Alors, c'est quoi cette maison?
Ça, c'est la maison de l'église.
Ah, c'est la maison de la paroisse. Et là, sur le piano, il y a un portrait, une photo de Selma Lagerlöf avec un petit drapeau suédois.
Et oui.
Et puis une boîte d'allumettes avec
Nils
Holgersson et les oies. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces réunions? De quoi on parle au cours de ces réunions? On évoque Selma Lagerlöf?
Ja, det gör vi. Vi har olika underhållning. Ibland spelar vi upp lite små sketcher.
Oui, och så har vi högläsning. On fait des choses différentes. Des fois, on fait des petits jeux de rôle.
Oui.
Et aussi, on lit à haute voix.
Sen besökte vi Glimmingehus för vi skulle se om det verkligen var svartråttor som vi hade läst om i boken.
Et puis, on a visité Glimmingehus pour voir s'il y avait réellement des rats noirs. Comme on avait lu dans le livre.
Et c'est quoi l'histoire des rats noirs et des rats gris?
Det var ju så att de skulle ju fara på fest på Kullaberg.
Ils devaient partir à une fête tous les animaux à Kullaberg.
Och det passade de andra råttorna på att ta över i Glimmingehus.
Et c'est alors là que les autres rats ont pris l'occasion pour prendre Glimmingehus.
Men då skaffade Nils en pipa som han blåste i och då följde alla råttorna med ut ifrån Glimmingehus.
Men alors Nils, lui, il a trouvé un flûte dans laquelle il a soufflé, alors toutes les rats lui ont suivi et sont sortis de Glimmingehus.
Det har vi bilder på, men jag har inte dem här.
Nous avons des images, mais je les ai pas ici.
Skulle nog inte ha hänt mor att hon hade lämnat den kistan öppen när han var ensam hemma. Han blev riktigt hemskt emots. Han var rädd för att en tjuv hade smugit sig in i stugan. Han vågade inte röra sig utan satt stilla och stirrade i spegeln. Medan han satt så och väntade att tjuven skulle visa sig började han undra vad det var för en svart skugga som föll över kistkanten. Han såg och såg och ville inte tro sina ögon. Men det där som till en början var skugglikt blev allt tydligare och snart märkte han att det var något verkligt. Det var inte bättre det än att en tomte satt och red gränsle över kistkanten. Han var inte mer än en förhand hög, han som satt på kistkanten. Han hade ett gammalt, rynkigt, skägglöst ansikte och var klädd i svart långrock, knäbyxor och bredskivig svart hatt. Han var mycket prydlig och ful.
Donc les gens comme Esther Nelander liront la légende de Nils Holgersson, rien ne sera perdu. et Vresna Vemeneug, 200 habitants, restera le nombril du monde. Là d'où est parti Nils Holgersson. Après que ce garnement de Nils, resté seul à la ferme de ses parents et ayant désobéi, fut transformé en tombe, c'est-à-dire en lutin, pas plus haut que ça. Voilà ce qui arriva. Nils grimpa sur le large muret en pierre envahi d'épines et de ronces qui entouraient la petite ferme et s'y installa pour réfléchir à ce qui allait se passer s'il ne retrouvait pas sa taille humaine. Quand papa et maman reviendraient de l'église, ce serait la grande surprise. Une surprise pour tout le pays lui-même. Et des gens viendraient le voir, de Stravemeneug et de Torp et de Skouroup, de tout le canton de Vemeneug, on viendrait le voir. Et papa et maman l'emmèneraient peut-être même à la foire de Kivik pour le montrer. Nils était profondément malheureux. Personne au monde n'était aussi malheureux que lui. Il n'était plus un être humain, mais un monstre. Il ne pourrait plus jouer avec d'autres garçons. Il ne pourrait plus reprendre la ferme après ses parents. Et il ne pourrait certainement pas trouver de jeune fille qui accepterait de l'épouser. Le temps était merveilleusement beau. Autour de lui, tout clapotait, bourgeonnait et gazouillait. Mais le chagrin qui l'affligeait était énorme. Jamais il n'avait vu le ciel aussi bleu qu'aujourd'hui. Et des oiseaux migrateurs le parcouraient. Venus de l'étranger, ils avaient traversé la mer Baltique et se dirigeaient droit vers Smygehouk, avant de filer vers le nord. Il y en avait de toutes les espèces, mais Nils ne savait reconnaître que les oies sauvages, qui volent en deux longues lignes se rejoignant en pointe. Plusieurs bandes d'oies sauvages étaient déjà passées. Elles volaient haut dans le ciel, mais il les entendait quand même crier « Nous montons vers les montagnes du Nord ! Nous montons vers les montagnes du Nord !» Quand les oies sauvages aperçurent les oies domestiques qui se promenaient dans la cour, elles se rapprochèrent du sol pour les appeler « Venez, venez ! Nous montons vers les montagnes du Nord !» Les oies domestiques ne purent s'empêcher de dresser la tête et d'écouter, mais elles répondirent tout à fait raisonnablement « Nous sommes bien là où nous sommes. Nous sommes bien là où nous sommes. » Ce devait être un formidable plaisir que de voler dans cet air si frais et si léger. Et à chaque passage d'une nouvelle bande d'oies sauvages, les oies domestiques s'agitaient un peu plus. Parfois, elles battaient des ailes, comme si elles avaient eu envie de les rejoindre. Il y avait un jeune jarre à qui les appels des oies sauvages avaient donné une véritable envie de voyager. « S'il en passe encore une bande, je m'en vais avec !» s'était-il dit. Et bientôt, une nouvelle bande arriva et appela comme les autres. Et cette fois, le jeune jarre répondit « Attendez-moi, attendez-moi, j'arrive !» Il étendit ses ailes et s'éleva dans l'air, mais il était si peu habitué à voler qu'il retomba par terre. Les oies sauvages, cependant, devaient avoir entendu ses cris, car elles firent demi-tour et repassèrent lentement pour voir s'il venait vraiment. « Attendez-moi, attendez-moi » cria-t-il en faisant une nouvelle tentative. Allongé sur le muret, Nils écoutait tout cela. Oh, « Ce serait bien dommage, pensa-t-il, si le grand jarre nous quittait. Papa et maman seraient terriblement malheureux s'ils ne le trouvaient pas en rentrant du temple. » Et tandis qu'il pensait cela, il oublia une nouvelle fois sa taille et son impuissance. Il bondit droit dans le troupeau d'oies et jeta ses bras autour du cou du jarre. « Toi, il n'est pas question que tu t'en ailles !» cria-t-il. Mais à ce moment précis, le jarre venait de découvrir la manière de s'élever du sol. Il fut incapable de s'arrêter pour faire tomber le garçon. Et celui-ci dut l'accompagner dans les airs. Le décollage fut si rapide que le garçon en eut le vertige. Et avant même d'avoir l'idée de lâcher le cou du jarre, il se trouva si haut que toute chute aurait signifié la mort. tout ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa situation, c'était d'essayer de rejoindre le dos du jar. Il eut du mal à se maintenir sur le dos glissant entre les deux ailes qui battaient l'air. Il dut plonger profondément ses mains dans les plumes et le duvet et s'y agripper pour ne pas glisser vers l'abîme. L'air sifflait et chevintait à ses oreilles, les ailes battaient, les plumes frappaient l'air en un véritable mugissement de tempête. 13 oies volaient autour de lui, battant l'air à grands coups d'ailes et criant tant et plus. Tout ondulait devant ses yeux et ça bourdonnait dans ses oreilles. Au bout d'un moment, le garçon se força quand même à jeter un coup d'œil en bas. Et il découvrit qu'au-dessous de lui, on avait étalé une grande nappe, divisée en une quantité incroyable de carreaux petits et grands. « Où diable suis-je donc arrivé ?» se demanda-t-il. Il ne voyait rien d'autre que cet assemblage de carreaux. Certains étaient de travers et certains en longueur, mais partout c'était des lignes droites et des angles nets. Rien n'était rond, rien n'était courbe. « Qu'est-ce que cet étoffe à carreaux que je vois ?» marmonna le garçon sans attendre de réponse. Mais les oies sauvages qui volaient à ses côtés crièrent tout de suite « Des champs et des prés ! Des champs et des prés !» Alors il comprit que cette grande étoffe à carreaux qu'il survolait était la terre plate de Scanie. Et il comprit pourquoi elle était si bariolée et quadrillée. Tout d'abord, il reconnut les carreaux d'un vert intense. C'étaient les champs de seigle qu'on avait ensemencés l'automne dernier et qui étaient restés verts sous la neige. Les carreaux d'un jaune terne étaient des chaumes qu'on avait moissonnés l'été dernier. Les bruns d'anciens champs de trèfle et les noirs des champs à betteraves non cultivés ou déjà chers récemment labourés. Les carreaux bruns à bord jaune étaient certainement des forêts de hêtres, puisque les grands arbres de l'intérieur de la forêt perdent leurs feuilles en hiver, tandis que les jeunes qui poussent en bordure gardent jusqu'au printemps leurs feuilles sèches et jaunies. Il y avait aussi des carreaux sombres avec du gris au milieu. C'étaient les grandes fermes bâties autour de la cour avec leurs toits de chaume noircis et leurs cours pavés et des carreaux verts bordés de marron aussi. C'étaient les parcs dont les pelouses reverdissaient déjà, tandis que les arbres n'avaient encore que leur écorce nue et marron. Alors, le garçon ne put s'empêcher de rire. Jamais, auparavant, il n'avait avancé à une telle vitesse. Lui qui avait toujours aimé lancer un cheval au grand galop. Et il n'avait bien sûr jamais imaginé qu'en haut, l'air pouvait être aussi frais, si chargé de bonnes odeurs, d'humus et de résine. Jamais non plus, il n'avait imaginé ce que pouvait être un voyage si haut au-dessus du sol. C'était comme de quitter tous les soucis, les chagrins et tous les déboires imaginables.
Bland annat på en geos.
Il a voyagé sur le dos de noix.
Och sen så, ja, han hade en röd luva som var, ja, det var hans favorit.
Et puis il avait un bonnet rouge, ou ça c'était son bonnet favori, il était rouge.
Mm. Sen så, ja, han, ja, var en sån som tyckte om djur. Och,
så. Il était genre de personne qui aimait les animaux et ce genre de choses.
Ja, han var precis som en vanlig pojke först.
D'abord, il était comme un garçon ordinaire.
Sen så Ja, han var stygg mot djur.
Et puis ensuite, parce qu'il a été méchant avec les animaux.
Så var det en tomte i en låda, tror jag. Det var det.
Et alors là, il y avait un petit tomte qui était, il était dans la maison.
Ja, och sen så, ja, den tomten var rättvis.
Et ce tomte était très juste.
Så han förvandlade till lite, så lite som en tumme.
Alors il a transformé Nils Holgersson dans un tout petit bonhomme.
Tu sais que depuis que tu parles, t'es devenue toute petite. Est-ce que tu crois que c'est vrai l'histoire de Nils Holgersson?
Ja, faktiskt. Ja.
Oui, en fait, je pense, oui. Ouais.
Tu penses que c'est vrai?
Yeah,
oui, je pense.
Merci aux oies, merci à Nils Holgersson. Je rappelle cet ouvrage formidable que vous connaissez, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlöf. On le trouve dans maintes éditions, en poche comme en beau livre. Merci aussi à Esther Nolander de Vastravemenhug. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Florence Lambollet et Antoine Viossa, Yann Chouquet, Pascal E, Pascariello et Christophe Imbert. C'est l'équipe de la Basse du Suisse. Je rappelle le numéro du répondeur de l'émission. C'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Ça, c'était un conte de Noël, mais il y a une très belle histoire qui trouve, vous l'avez entendu il y a quelques instants, son dénouement aujourd'hui. La libération des otages Christian Chesneau et Georges Malbruno, l'Élysée a annoncé leur libération il y a quelques instants. On en reparle après cette page de pub.